Ils exercent un métier essentiel, un métier de passion, de passeur. Partons à la rencontre de ces femmes et de ces hommes qui créent dans la cité des espaces de culture et de convivialité. Ils nous racontent leur parcours personnel, les valeurs qui les animent, les coulisses de leur profession. Écoutons-les, des libraires se livrent.
Portrait de libraire. Brice Torrecillas s'entretient avec Aude et Elias Fares, librairie Le Chameau Sauvage à Toulouse.
Bonjour Aude, bonjour Elias Fares. Nous nous trouvons au Chameau Sauvage. Drôle de nom pour une librairie, on pourrait commencer par ça. D'où vient-il ?
Alors, Le Chameau Sauvage, c'est donc à la base le titre du premier roman de Philippe Jaénada, qu'il a publié en 1997. Et donc, quand on a cherché à baptiser cette librairie, on avait toute une liste de noms. Et c'est Aude qui avait tilté en fait sur ce titre parce que bon, elle aime bien Jaénada et on cherchait un nom justement qui sorte un peu de l'ordinaire par rapport au nom qu'on peut donner aux librairies. Et donc ça nous a interpellés tous les deux, on trouvait ça un peu décalé. Ça pouvait un peu attiser la curiosité et on s'est dit si on choisit ce nom, il faut par principe demander l'autorisation à l'auteur.
Bien sûr.
Donc on lui a écrit, mais sans trop y croire, et en fait on a eu l'agréable surprise qui nous répondent, complètement enthousiaste et assez touché. Parce que c'est son premier roman aussi. Et à partir de là, il n'y avait plus à hésiter, il fallait que ce soit ça.
Il est venu visiter cette librairie ?
Pas encore, on n'a pas eu l'occasion. Donc lui vit sur Paris, mais on reste régulièrement en contact. Et voilà, on espère, on attend une prochaine rencontre.
D'autant plus que c'est notre parrain. Il a accepté en plus de jouer le rôle de parrain. Mmh. Donc il nous a vraiment promis qu'il viendrait à un moment...
On l'attend de pied ferme, donc. Alors, après un nom, on pourrait prononcer une date. Le 12 novembre 2019, que s'est-il passé le 12 novembre 2019 ?
Ah bah c'est la date d'ouverture au public de la librairie. Ah ouais. C'était un mardi. Évidemment, pour nous, rien n'était prêt. On avait l'impression encore que les meubles venaient juste d'être montés, qu'il nous manquait des bouquins, etc. C'était un moment à la fois de joie, parce que l'aboutissement aussi de toute une phase ultra intense de préparation, d'investissement, de réflexion, etc. Et puis après, le baptême du feu avec l'arrivée du public, la découverte du lieu, de ce que nous, on avait voulu mettre en place, aussi bien en termes d'offres de livres que d'animation, parce que pour nous, c'était important dès le début d'avoir un programme d'animation pour que les gens sachent que c'est un lieu où ils pourraient trouver aussi bien des livres que des opportunités de rencontre et aussi donc cet espace bar qu'on a voulu proposer au quartier.
Oui, du reste, sur l'enseigne, il n'y a pas simplement librairie, il y a librairie, café culturel, c'est bien ça ?
C'est ça, il nous semblait que c'était un terme qui regroupait l'ensemble des activités qu'on souhaitait développer au sein de notre petit lieu. Donc, comme le disait Elias, aussi bien une librairie généraliste, qui était quand même le cœur du projet, pour un quartier qui n'en avait pas. Et puis, ce côté café-bar, ce côté atelier, puisqu'on a une petite salle qui nous permet d'organiser des ateliers aussi bien pour adultes que pour enfants, qu'il s'agisse d'ateliers d'écriture, de bandes dessinées, mais aussi tout type d'ateliers culturels qui correspond un peu à ce qu'on attend pour un lieu pareil. Et donc voilà, ce côté librairie-café culturel nous paraissait assez... assez révélateur de ce qu'on voulait en faire.
Alors, si on décrivait ces lieux, moi, quand je suis arrivé, j'ai découvert, alors c'était charmant, hein, j'ai vu à travers la vitrine des carreaux genre métro, mais je me suis dit, c'est tout petit, et puis que nenni, en fait.
Oui, on aime bien créer des effets de surprise. Donc, en fait, nous, on n'est pas très loin du métro Barrière de Paris. Et quand on arrive dans l'avenue des États-Unis, on tombe sur notre petite enseigne avec une marquise et puis cette porte en bois qu'il faut avoir la curiosité de pousser. Et au bout d'un petit couloir, on va déboucher effectivement sur la librairie proprement dite, où il y a différents espaces. On va naviguer entre les rayons et puis très vite, on va arriver sur ce patio qui nous sert un petit peu de terrasse, en fait, pour la partie café. Qui donne sur une verrière et où on aboutit après sur l'espace jeunesse, histoire que les familles puissent aussi trouver un lieu où elles se sentent un peu comme chez elles, quoi.
Vous l'aviez trouvé comment, ce lieu ?
En fait, on le connaissait puisque depuis quelques années, il abritait un restaurant associatif qui jouait pour le coup sur un peu le bouche à oreille, qui n'avait pas pignon sur rue, mais que les gens du quartier connaissaient par la qualité de la nourriture qui était proposée, par aussi le charme du lieu, puisque c'est quand même une maison individuelle, donc forcément, c'est pas un local commercial classique. Il y a une chaleur qui se dégage. Vous parliez des carreaux en mosaïque, de carreaux métro. Bon, bah oui, ça fait partie du lieu qui est très atypique, qui donne sur un petit jardin.
Ah oui, le petit jardin. Parlez-moi du petit jardin.
Le petit jardin est pas très grand, mais il est assez arboré. Là, on remarque que le cerisier commence à donner des fleurs. Donc,
oui, il y a des lauriers roses.
Voilà,
aussi.
Il y a des bambous. Et puis, on a créé un petit espace café dans le jardin également pour que les gens puissent en profiter.
Mais alors, de quelle manière ils prennent leur thé? Ils vont siroter un thé dans le jardin avec un livre dans les mains, c'est ça?
Alors, pas forcément avec un livre dans la main. Enfin, c'est vraiment le principe d'un café classique. Donc, les gens, ils s'y retrouvent, ils s'y posent, ils y travaillent. S'ils veulent lire, ils peuvent lire. Après, ce n'est pas les livres de la librairie, puisque les livres de la librairie sont en vente, donc ce n'est pas une bibliothèque.
Non plus. Tout à fait, oui. À moins qu'ils ne l'aient acheté juste avant, oui, et qu'ensuite, voilà, ils se retirent pour...
Tout à fait. Donc, le même fonctionnement vraiment qu'un café normal. Et puis, du coup, comme c'est ouvert sur le quartier, il y a aussi des rencontres impromptues qui peuvent se faire. Des gens qui se sont croisés lors d'un événement, d'une rencontre, se retrouvent après autour d'un verre. Et nous, ce qu'on voulait, c'était justement que ce soit pas uniquement salon de thé, comme il y en a dans beaucoup de librairies, mais aussi proposer des vins bio, des bières artisanales, pour renforcer un peu ce côté chaleureux. Et puis que ça fasse justement une sorte de sas avec l'extérieur. Une fois qu'on a quitté cette avenue, on se retrouve dans la librairie, dans le café ou dans le patio, s'il fait beau, dans le jardin. Et on oublie un petit peu justement l'environnement immédiat. L'avenue, les voitures, les bruits de la ville, etc.
Quand vous êtes arrivé, quand vous avez ouvert plus exactement le 12 novembre 2019, vous avez vu arriver des gens. De quoi est constituée votre clientèle et quels sont les rapports que vous avez? On doit nouer peut-être même des amitiés, non? Je me trompe?
C'est complètement le cas. Effectivement, dès le début, la première semaine, les premiers jours, sont arrivés des gens qui avaient suivi la préparation du projet, puisqu'on avait communiqué en amont de l'ouverture, et des gens qui étaient très impatients de voir ouvrir une librairie. Donc ces gens-là sont venus dès le début. Et comme vous dites, très rapidement, on a instauré un lien très fort avec cette clientèle-là et avec les clients suivants. On a cette chance-là en librairie de créer du lien quand même. Par rapport à un commerce classique, on échange beaucoup, les gens sont attentifs et viennent chercher nos conseils de lecture très souvent. Il y a une relation humaine qui est là et qui effectivement a pu permettre de déboucher sur de réelles amitiés. J'ai plusieurs personnes en tête qui sont vraiment devenues des amis alors qu'on ne les connaissait pas le 11 novembre 2019.
Maintenant, passons à votre parcours personnel. Je crois qu'au départ, vous n'étiez pas forcément destinée à ça, Aude.
Non, ni l'un ni l'autre d'ailleurs. Moi, j'ai travaillé pendant 20 ans dans un tout autre domaine. J'étais dans la fonction publique territoriale et sur la fin, j'assurais un poste à responsabilité qui me plaisait, sur des domaines qui me passionnaient. Néanmoins, se pose la question à un moment de changer d'activité, de se reconvertir et d'être en phase aussi avec ses valeurs profondes. Et finalement, avec un an et demi de recul, je me rends compte que le métier que j'exerce actuellement, qui est celui de libraire, est presque la continuité de mon métier précédent, dans le sens où c'est presque un métier de service public. On est passeur, on offre quelque chose aux gens, que ce soit du rire, de la réflexion, du rêve. On a cette relation-là avec le public comme je le disais, qui n'existe pas forcément dans tous les commerces, du fait aussi qu'on organise des rencontres, etc. Tout ça, pour moi, ça s'inscrit dans la continuité. Et puis, ça s'inscrit sur des valeurs profondes. Voilà, j'ai cité le partage, l'envie de faire découvrir, l'envie d'offrir les mots en partage, mais pas seulement, la culture en partage, tout ça, ça fait partie de moi, ouais.
Un métier essentiel, maintenant c'est admis, hein, officiellement admis. Elias, votre parcours à vous?
Donc moi, je viens de l'illustration, enfin je fais de l'illustration, illustration de commande, j'anime aussi des ateliers de bande dessinée, donc plus le côté un peu enseignement. Et donc bon, il y avait cet intérêt pour la bande dessinée en particulier, puisque c'est vraiment ça que j'ai exercé en premier lieu, et voilà.
Alors, et voilà, vous coupez net, mais je suis sûr qu'il y a des tas d'autres choses à dire. Par exemple, bah tiens, si on abordait vos goûts, vous avez parlé de bande dessinée. Est-ce que les rôles sont aussi définitivement répartis que ça? Haute s'occupe des littératures essais, et vous de BD ou...
Alors, on s'efforce d'être le plus polyvalent pour justement pouvoir répondre au public enfin, selon leurs besoins et un peu dans tous les rayons. Et après, la force des choses fait que... au-delà même d'un intérêt personnel, parce qu'on est vraiment tous les deux curieux des mêmes choses, mais peut-être que oui, on va petit à petit un peu se spécialiser. Donc Aude quand même particulièrement en jeunesse, moi peut-être plus en bande dessinée, mais après on est capable un petit peu de gérer les deux.
Je la vois qui hoche la tête.
Oui, enfin moi, quand tu es absent et qu'on me demande des conseils en bande dessinée, j'ai quand même un petit temps de panique, on peut le dire, oui, puisque j'ai quand même nettement moins de références en tête que toi. Et voilà, oui, comme il le dit, par la force des choses, on s'est finalement réparti un peu les rôles sur certains thèmes, comme il le dit, bande dessinée, jeunesse. Après, en ce qui concerne la littérature, les essais, on est plutôt polyvalent et on fonctionne tous les deux.
Ce rôle de conseiller, il est réellement très fréquent dans la journée ?
Oui. Il y a les deux types de personnes. Il y a celles qui réellement ont un titre en tête et qui viennent le chercher, mais qui, de toute façon, se laissent aussi embarquer par ce qu'on propose, nous, sur table et en rayon. Et clairement, la majorité de nos clients sont attentifs à ce qu'on propose. Aussi bien sur les petits mots qu'on peut écrire sur les livres, les coups de cœur, etc. Mais aussi, voilà, ils nous le demandent clairement. Voilà, qu'est-ce que vous avez aimé dernièrement en policier, en littérature? Et ils nous écoutent, ils nous font confiance.
Je ne vais pas vous demander ce que vous avez aimé dernièrement, mais ce que vous aimez en général. Vous avez parlé de BD. Quel genre de BD aimez-vous, Elias?
Bon, c'est un peu large parce que je suis plutôt ouvert d'esprit, mais ouais, j'ai peut-être plus un intérêt pour, enfin, la bande dessinée d'auteur. Je sais pas si ça signifie quelque chose, mais une bande dessinée qui est pas forcément dépendante des genres ou des codes, voilà, classiques du récit de bande dessinée, et puis avec un traitement graphique qui est une vraie personnalité. Donc ça peut aller, je sais pas, d'auteurs comme Lewis Trondheim à d'autres comme, je sais pas, Will Eisner, enfin voilà, des plus anciens,
des
grands classiques, des grandes références. Mais après, moi, je m'intéresse aussi bien aux comics qu'aux mangas. Et maintenant que je suis libraire, où j'essaye vraiment d'élargir encore plus mon panel de connaissances, ce qui est vraiment chouette, c'est qu'on se rend compte qu'en bande dessinée comme en littérature, ce qu'on propose, ce qu'on a en assortiment, ça colle vraiment, enfin, pour une bonne part, avec ce que les gens viennent chercher ici.
C'est parfait.
Et où on essaye de proposer aussi, voilà, les grandes séries, les best-sellers, les titres que les gens attendent, mais en fait, c'est vraiment pas ce qu'ils viennent chercher. Donc, sans forcément citer de grandes séries de bandes dessinées, mais c'est vrai qu'il y en a en fait. Enfin voilà, on les a, mais c'est pas le gros de la demande. Et comme disait Aude, la majorité des gens, ils viennent là un peu pour la découverte, pour le conseil, etc. Donc on peut être vraiment force de proposition et écouter vraiment nos propres goûts et se dire ça peut coller vraiment à une demande, à ce que les gens vont rechercher. Donc ça nous met aussi en confiance dans ce qu'on choisit de faire rentrer, enfin ce qui concerne des nouveautés ou bien des auteurs qu'on a envie de suivre, dont on veut partager vraiment les œuvres. Et ça, oui, c'est une des grandes gratifications de ce qu'on fait, quoi.
Aude, même question pour les goûts d'ordre général, je vais dire. On a parlé de littérature jeunesse, est-ce qu'il y a des noms qui se détachent? Ou en littérature adulte?
Oui, alors moi, j'ai toujours été une très grande lectrice, donc forcément, j'ai des goûts très éclectiques, vraiment. C'est pour moi une des pires questions de me demander le bouquin préféré. Non, ça, je ne sais absolument pas y répondre, je le dis tout de suite. alors oui, en littérature, moi, je suis aussi bien attachée à des personnes comme Romain Gary, pour sa langue, pour son engagement, pour son sens de l'autobiographie, son refus des conventions sociales et même littéraires, hein, puisqu'il il a pu jouer avec plusieurs styles,
oui,
avec le côté Ajar et le côté Gary. Bon, voilà, des écrivains comme ça, ou des Raymond Carver, par exemple, avec ses nouvelles très sombres, très intimes, et son style super dépouillé qui met l'accent sur le quotidien désabusé de ces Américains des années 70. Enfin, ce genre de littérature-là, moi, me porte, etc. Et puis, là, en ce moment, je le vois, puisqu'on travaille beaucoup les nouveautés, forcément, et dans les nouveautés, dans les auteurs contemporains, je tombe sur des pépites régulièrement. Une des dernières en date, c'est Thibaut Bérard, par exemple, un auteur que je ne connaissais absolument pas, qui a publié son premier roman l'an dernier et qui m'a, moi, complètement bouleversée.
Voilà. Le nom du premier roman ?
Il est juste que l'effort soit frappé. Et on attend le deuxième pour le mois d'avril, donc je suis plutôt impatiente.
Vous avez plusieurs fois, au cours de notre entretien, évoqué le terme de rencontre. Alors, que s'est-il passé ici ? Je crois qu'il y a eu des choses curieuses, lecture drague, je crois. Et aussi, le Chili a été plusieurs fois à l'honneur. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça ?
Oui, alors pour les rencontres, bon, on se laisse porter par nos envies et justement de proposer des animations qui soient pas uniquement axées sur la littérature, qui a vraiment un sens, culture au sens large. Donc il y a bien sûr eu des rencontres d'auteurs pour des publications. Donc on a reçu des auteurs de Polar, Benoît Sévrac, Serge Nicolo, Christophe Guillaumeau. On a reçu des auteurs, des autrices de poésie. On a fait aussi des rencontres sur la bande dessinée, sur des aspects aussi plus culturels, comme le Chili. On a fait une rencontre autour de Luis Sepúlveda, notamment.
Après sa disparition, c'est ça ?
Ouais, tout à fait. On essaie de mettre en avant des maisons d'édition aussi, locales ou autres. Comme Blast ou Anacarsis.
N'hésitez pas à intervenir, Audin, je vous vois faire des signes marqués. Tu vois.
Si j'en oublie.
N'hésitez pas.
Bon, j'en oublie forcément.
Oui, Blast, Anacarsis, Smolny, par exemple, parmi les premières qu'on a reçues.
Ouais.
Et puis
des rencontres musicales aussi, même si on n'est pas un lieu de concert, ça reste plus dans un cadre un petit peu intimiste, mais voilà.
Et les moments forts, vraiment, allez, on ne va pas faire de malheureux, mais si on devait choisir un...
Ah bah clairement, moi vous l'avez cité, je repense aux lectures drague qu'on a organisées. C'était un des premiers événements qu'on organisait justement. Ça s'est passé début décembre, donc.
Expliquez-nous ce que c'est qu'une lecture drague.
Alors c'est des lectures pour enfants faites par deux drag queens, donc qui sont habillées, déguisées, etc. Et on avait choisi ensemble des livres qui ouvrent quand même sur la diversité culturelle, la diversité de genre, l'acceptation de l'autre, etc. Et ce jour-là, c'était un samedi après-midi, on avait organisé un petit goûter après, la librairie était pleine à craquer. Et comme c'était un des premiers événements qu'on organisait, franchement, ça faisait chaud au cœur, c'était une ambiance très très chouette.
Donc c'est un véritable engagement qui n'a pas fait grincer quelques dents le...
Pourquoi ?
Je pose la question.
Je crois que ça nous a identifiés aussi comme une librairie...
Ouverte,
oui, voilà. Je ne sais pas si on peut utiliser le terme engagé. Je le trouve un peu galvaudé. On ne sait pas trop ce qu'on met derrière.
Militant, peut-être ?
En tout cas, avec des valeurs.
Oui, voilà, avec des valeurs et qu'on a envie de défendre. Ouais.
Et puis, même si ça rime, libraire n'est pas forcément solitaire, un libraire. Hein, donc, vous avez dû faire des manifestations en association avec des salons du livre, d'autres associations, etc. Dites-moi.
Alors oui, effectivement, on a été associés à plusieurs événements dès la première année. Je pense par exemple au Théâtre Centre Culturel des Mazades, avec qui on a organisé une session autour de la bande dessinée d'auteurs, d'autrices d'ailleurs, toulousaines. On était librairie partenaire de 6e rencontre du livre et du papier organisée par l'Espace Job. Bon, le fait est qu'elles n'ont pas pu se tenir, mais en tout cas, on y a travaillé avec grand plaisir. On fait partie de l'équipe de Toulouse Polar du Sud, en ce qui concerne l'accueil des auteurs. Et puis, on devait aussi participer, par exemple, au Marathon des mots, en accueillant une autrice qui est là. Voilà, ça n'a pas pu se faire de manière physique non plus, et on espère prolonger l'aventure dans les années qui viennent.
Eh ben pour terminer, à propos de valeurs, quel est votre regard sur la librairie en général ? Quelles sont les difficultés auxquelles vous pouvez vous heurter ? Les projets ou les idées que vous auriez en tête à son sujet pour améliorer les choses ? parce qu'elles ont toujours besoin d'être améliorées,
oui,
je suppose.
Oui. Et là, bon, enfin, au fil de notre petite expérience, moi, je pense qu'en fait, c'est cette question-là, on se la posera tout le temps, quoi, sur l'amélioration des choses, de l'accueil, de ce qu'on propose. Je pense que c'est une stratégie qui est toujours en phase de réflexion et puis qu'on essaye de faire au mieux parce que la situation évolue, parce que notre clientèle, on continue à la constituer, les gens continuent à nous découvrir. Donc, il y a toujours, oui, envie de proposer des choses qui nous correspondent, nous, mais encore une fois, qui semblent correspondre à ce que les gens attendent d'un lieu comme celui-là, qui ne soit pas juste un commerce, mais vraiment un lieu de rencontre, encore une fois, quoi, de proposition, de découverte.
Et puis, ce que je voulais signaler aussi, c'est que on est donc, nous, on commence notre deuxième année, mais pour répondre à votre question sur qu'est-ce qu'on peut améliorer, proposer différemment, tout ça, c'est, comme le disait Elias, ça va être au fil de l'eau, puisqu'on sort d'une première année qui était très particulière tout de même.
Tout
puisque
à fait.
3-4 mois après notre ouverture, on a dû tirer le rideau pour 2 mois en raison du premier confinement. Donc forcément, ça a mis un coup d'arrêt à plein de choses, à nos rencontres, mais aussi à notre trésorerie, à notre économie. Enfin, on a quand même passé une année assez difficile. Et là, avec l'engouement qu'il y a pu avoir après chaque confinement de la part du public, et notamment en décembre, puisque les gens se sont quand même rués dans les librairies, pas seulement chez nous, mais on en a bénéficié,
oui, c'est bien
à notre
de le
échelle.
Souligner,
voilà,
tout à fait.
Donc grâce à ça, on pense que la librairie maintenant, elle est sur des rails et elle ne devrait plus trop en sortir. Mais on commence une deuxième année sans avoir de référentiel possible. C'est-à-dire que c'est à nouveau une première année. Aussi
oui,
bien
ouais.
En termes de comportement de clientèle, puisqu'on ne sait pas comment ça va fonctionner cette année. Est-ce que les gens continueront à être aussi présents qu'ils ont pu l'être après chaque confinement? En ce qui concerne notre offre, est-ce qu'elle colle au public? Est-ce que tout ça, on est encore obligé de le travailler, comme si c'était une première année, puisqu'on ne peut absolument pas se baser sur ce qui s'est passé l'an dernier.
Eh bien, écoutez, on vous souhaite le meilleur. Donc, on est au Chameau Sauvage. Vous rappelez l'adresse, s'il vous plaît?
Oui, c'est donc dans le quartier des Minimes Barrières de Paris. C'est au 43 de l'avenue des États-Unis, proche du métro Barrières de Paris.
Merci Aude et merci Elias.
Merci à
Brice.
Vous.
Portrait de libraire, un podcast du Marathon des mots, avec le soutien de Toulouse Métropole.